פרשת שלח לך. שיר זה מיישם עליכם, תחיו לאורך ימים טובים, שנים נעימים. Dans la parasha, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes confrontés à un sujet épineux, difficile, qui est la faute des explorateurs. Nous devons prendre garde de ne pas réduire la faute à notre petite dimension. Les personnages qui sont mentionnés dans la Torah au sujet de cet épisode sont des individus, des personnages exceptionnels, d'une autre dimension. Cette génération-là est appelée Dordéa. Le Da'at, la connaissance qui se trouve dans la structure humaine au niveau du cervelet, canalise les trois sphirotes de l'intellect, qui sont le Keter, la Chochma et la Bina. Il s'agit en réalité de notions totalement spirituelles qui se trouvent juste au niveau de l'intellect. Notre dimension à nous se trouve au niveau de l'action. Nous sommes au niveau le plus bas de la structure humaine, nous sommes au niveau des jambes. Donc nous sommes très loin de l'appréciation réelle du niveau des explorateurs. La Gemara dit dans Baba Batra, Amar Baba Bachana, Amar li Aoutaya, Baba Bachana a rencontré un bédouin dans le désert. Il lui dit, Ta, viens, et hevelach mete mitba. Viens que je te fasse voir les morts du désert. Donc la génération qui ne rentrera pas en Eretz Israël. Azle ve hazidinu de damu keman de bimsame ve ganu. Il les a vus il a vu leur visage resplendissant, illuminé dans leur mort. Et il les a vus tellement énormes, grands, d'une dimension exceptionnelle, que il y en avait un qui avait la jambe pliée, et sous son genou pouvait passer un chameau avec le cavalier qui tenait une lance. Donc c'est évident que cette Gemara nécessite un décodage. Il s'agit de choses profondes. Donc il a voulu prendre, Baba Chana a voulu couper une partie d'un tzitzit, le coin d'un tzitzit, d'un talit, des morts, et il n'a pas pu le prendre. Donc, ce sont des individus exceptionnels. Donc, il ne s'agit pas de les réduire à notre petite dimension. Quelle est leur faute? Pour bien comprendre cela, nous devons analyser la structure de Am Israël et des tribus. Yaakov Avinu se marie avec deux femmes, essentiellement, qui sont Rachel et Léa. Yaakov Avinu, la Gemara dit, « Choufré de Yaakov, ke'en choufré de Adam kadma'a. » La structure, la splendeur, la vie de Yaakov Avinu ressemble et celle de Adam Arishon, avant la faute. Et Adam Arishon, avant la faute, il a deux niveaux. Il se situe dans Kadosh Baruch Hu le place dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, il y a deux arbres, essentiellement. L'arbre de vie, Etz Haim, et Etz Hada'at Tovara, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres symbolisent les deux éléments de la structure humaine. L'élément spirituel, totalement spirituel, dénudé totalement de matérialité, et l'autre qui est la structure physique de la création, la connaissance du bien et du mal. La matière, le corps et l'âme. Yaakov et nous se marient avec deux femmes, il va donner naissance à 12 tribus. Il se marie d'abord avec Léa. Léa est qualifiée de Alma de Itkrasia, le monde voilé et caché. D'ailleurs, elle est à l'intérieur de sa maison et elle devait se marier théoriquement avec Ésaü qui lui est dans les champs. Il est à l'extérieur. Étant donné que la femme complète est le complément de son mari. Yaakov va se marier avec Rachel après. Elle, Rachel, est à l'extérieur. Elle fait paître les troupeaux. Elle est bergère. Elle travaille vers l'extérieur. Et Yaakov, en réalité, a les deux facettes. Il a la facette de Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Il est dans la spiritualité totale. Et d'autre part, il a récupéré les brachot qui étaient destinés à Ésaü, qui Ésaü, lui, est à l'extérieur. Donc Yaakov, il a deux facettes. Il a, d'une part, l'arbre de vie, totalement détaché de la matérialité, et d'autre part, il a la fonction de travailler la matérialité pour la maîtriser, ce qui était, en théorie, la fonction de Ésaü. Les tribus d'Israël aussi ont ces deux facettes. Nous avons les enfants de Léa, d'une part, et les enfants de Rachel, d'autre part. La terre d'Israël est qualifiée de Rachel, c'est le malchut, c'est la matérialité. La génération qui sort d'Égypte est une génération qui a grandi instantanément. La sortie d'Égypte est comme un accouchement. Mais au lieu que cet accouchement donne naissance à un enfant tout petit qui va grandir au fur et à mesure des jours qui passent pour arriver à l'âge adulte, il est adulte en un instant. La sortie d'Égypte est une naissance d'une nation, donne naissance à une nation structurée en un jour. Au jour de la sortie, cette génération-là va vivre en dehors de la matérialité. Elle va être dans un nuage, elle va être dans une nuée, dans l'irréel. L'irréel de la matérialité. Ils vivent un degré totalement détaché de la matérialité. Ils sont entourés des nuées. Ils mangent la manne, qui est l'aliment des anges. Ils boivent l'eau du puits de Myriam, qui est de l'eau qui n'a rien à voir avec l'eau que nous consommons. C'est la consommation de la manne permet la pureté totale du corps. Il n'y a rien à rejeter. La consommation de l'eau du puits de Myriam permet une connaissance, une compréhension totale de la Torah. Comme il est dit au sujet du Harizal, que lorsqu'il devait enseigner à son élève, Rabbi Chaim Vital, afin que la connaissance puisse le pénétrer et s'établir en lui, il lui a fait boire de l'eau du puits de Myriam. Et troisièmement, ils étaient entourés des nuées, c'est-à-dire qu'ils étaient totalement détachés de ce monde. La problématique est comment pénétrer en Eretz Israël ? Comment faire pour que la réalité spirituelle prenne effet sur la matérialité ? C'est la grande problématique qui va se poser à nos ancêtres dans le désert. Yehoshua est un descendant de Yosef. Il est un descendant de Rachel. Il est attaché à la terre d'Israël. Caleb est un enfant de Léa, de la tribu de Yehuda. Moshe Rabbeinu a peur pour Yehoshua, parce que bien qu'il soit destiné à rentrer en Eretz Israël, il est l'élève, il est la transmission directe de Moshe. Moshe, lui, n'a rien à voir avec le monde matériel. Il est lui-même le Da'at. Il est lui-même le Da'at. Il est lui-même l'intellect de la Torah. Il est au-dessus de la matérialité. Comme il est dit que il a été mis sur le fleuve. Et la fille de Pharaon, à ce moment-là, la fille de Pharaon est venue se tremper et se purifier comme dans un mikvé, alors que le fleuve lui-même était une idole. Ramami Panodi, c'est que lorsque Moshe a été placé sur le fleuve, il a purifié, lui-même a purifié l'eau du fleuve, pour permettre à Batia Batpao de se purifier elle-même en se trempant, en s'immergeant dans le fleuve. Donc on voit que Moshe Rabbeinu n'a rien à voir avec la matérialité. Il est totalement spirituel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va se séparer complètement de sa femme. La complémentarité des tribus, le bâton de Ephraïm, qui doit s'associer au bâton de Yehuda, comme dit le prophète. Il faut arriver à les unir, à les unifier, à faire que ces deux qualités, la spiritualité totale de Léa, le détachement total de la matérialité et l'attachement complet à la matérialité de Rachel, arrivent à s'unir, on arrive à conjuguer les deux. La problématique est comment faire pour que ces deux choses opposées, totalement opposées, arrivent à se conjuguer et à trouver un équilibre. Ça, c'est la problématique. Ils rentrent en Eretz Israël, ils voient que la terre d'Israël, ils n'ont pas la capacité de transformer la matière et de dévoiler et d'y dévoiler la lumière. Ils sont trop hauts pour cela. Plus tard, il est dit, deux mitzvot sont données dans cette paracha. D'une part, Afrashat Hala, le prélèvement de la Troumat Hala sur le pain, et d'autre part, à la fin de la paracha, Parashat Tzitzit. Ces deux mitzvot-là se ressemblent énormément. En ce point, comme ça, c'est la mitzvah de Chala est une mitzvah qui dépend de la terre d'Israël. En réalité, on ne peut l'appliquer, comme toutes les autres mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël, on ne peut les appliquer qu'en terre d'Israël. Donc, comme il est dit, « Bevoachem el haaretz » quand vous viendrez sur la terre. Et qui doit venir sur la terre? L'ensemble du peuple, les 12 tribus. Si une tribu disparaît, quitte la terre d'Israël, cette mitzvah-là n'existe plus. Comme toutes les mitzvot qui dépendent de la terre, comme la Shemitah, le Yovel, le Troumot et les Maasrot, les prélèvements que l'on doit faire sur les récoltes, etc., sont aujourd'hui que Midérabanan. Et pas seulement aujourd'hui, depuis la dispersion des 10 tribus environ 130 ans avant la destruction du premier temple, ces mitzvot-là ne s'appliquaient plus, Minatora, puisque l'ensemble du peuple ne résidait plus à leur place sur la terre d'Israël. Mais la seule mitzvah qui dépend de la terre d'Israël, qui va être appliquée même en exil, est la Frachat Hala. La Gemara a dit, nos maîtres ont institué le prélèvement de la Hala même en dehors d'Israël, afin que la loi de Hala ne s'oublie pas. Tout le peuple était dispersé pendant des centaines d'années, 2000 ans. S'il n'y avait pas cette application-là, que serait devenue cette mitzvah? Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas fait exactement la même takana pour la Trouma. Il est possible qu'il y ait des Juifs qui possèdent un champ de blé ou une vigne sur laquelle ils auraient pu faire Midérabanan, même en dehors d'Israël, le prélèvement de la Trouma et du Maaser. Cela n'a pas été institué, uniquement la Chala. Deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Tzitzit. Elle est là, elle aussi, elle n'est pas applicable correctement de notre temps. Nous ne pouvons pas l'appliquer correctement. Nous n'avons pas le Techelet. Nous n'avons que le blanc. Nous avons, entre guillemets, de la chance que l'Halakha ait été fixée, comme ceux qui pensent que Atechelet enome akevet alavan. Le fait de ne pas avoir la couleur bleue, azur, on ne sait pas comment l'obtenir, n'annule pas la mitzvah, n'empêche pas d'appliquer le mitzvah tzitzit avec des fils blancs uniquement. Nous avons cette chance-là. Certains rishonim pensent que non, que même de notre temps, nous ne pouvons pas appliquer la mitzvah de tzitzit parce que nous n'avons pas le techelet, et eux pensent que sans la couleur bleu fil bleu, nous ne pouvons pas mettre de tzitzit à notre vêtement de quatre coins parce que cette mitzvah-là n'est pas applicable. Donc il serait interdit de porter un talit comme nous le portons. Parce que c'est comme si on portait un vêtement à quatre coins sans tzitzit, ce qui est interdit. Comme ça pense le Baal HaMaor dans Shabbat. Maintenant, revenons aux deux éléments que nous avons dit. La démarche des enfants de Léa et la démarche des enfants de Rachel. Regardons bien. Les enfants de Léa sont à un niveau spirituel très haut. Alma de Tracia. C'est Dordéa. C'est la génération qui reçoit la Torah de Moshe Rabbeinu. Une Torah totalement spirituelle. L'arbre de vie totalement détaché de la matérialité. Le but est de descendre cette spiritualité, la lumière, et de la faire agir sur un élément matériel. Arriver à appliquer la lumière dans la matérialité. C'est une action du haut vers le bas. De l'autre côté, nous avons la démarche des enfants de Rachel. C'est à l'inverse, faire de la matérialité le dévoilement de la spiritualité. De nos jours, le danger, il est certes certain que ceux qui s'adonnent qu'à la matérialité ont de grands risques pour eux qu'ils se détachent totalement de la spiritualité. De l'autre côté, ceux qui s'adonnent totalement à la spiritualité, ceux-là aussi sont totalement détachés de la matérialité. Il n'y a pas de conjugaison des deux forces, des deux attitudes. C'est le danger. Comment faire pour que Yehuda et Ephraim s'accordent? Nous avons la mitzvah de Challah et la mitzvah de Tzitzit. Alors, analysons la mitzvah de Tzitzit. Le Tzitzit, le Techelet, l'essentiel du Tzitzit, c'est le fil bleu, que nous n'avons pas, mais le fil bleu est essentiel. Tu le verras et tu te rappelleras de toutes les mitzvot. Le tzitzit symbolise toute la Torah. Il y a 32 fils dans un tzitzit. À chaque coin, il y a 8 fils. De ces 8 fils-là, il devait avoir un fil bleu. Donc nous avons 28 fils blancs et 4 fils bleus. Le bleu, pourquoi est-il bleu? Il dit parce que la mer est bleue. Et pourquoi la mer est-elle bleue? Parce que le ciel est bleu. Et pourquoi le ciel est bleu? Parce que le trône divin est bleu. Donc cette couleur-là fait référence au trône divin. Qu'est-ce que le trône divin? Le prophète dit, « Mimadad bishalomaim » Qui peut mesurer l'eau dans la paume de sa main? Le Zohar dit que l'eau, les mers, d'elles-mêmes sont infinies. Elles ne sont limitées que par l'éther. Mais elles n'ont pas de limite propre. C'est la terre qui vient et qui met une limite à la mer. Et le Zohar fait un parallèle entre la mer et la terre. C'est comme si que les lumières, l'âme de ce monde est comparée à la mer et le corps limite l'âme, le corps étant la terre. La terre qui entoure les mers met une limite à la spiritualité que symbolise la mer. Notre âme est infinie en réalité. Seulement, c'est notre corps qui lui détermine une limite et qui lui fait une frontière. Jusque-là, tu as le droit d'agir. La mer symbolise la puissance de la Torah, l'infini. Et quand tu regardes la mer, tu as l'impression, une impression d'infini absolu. Et quand tu regardes la profondeur du ciel, là aussi tu ressens l'infini du Créateur. Tout ça mène aux quatre lettres du nom de Dieu, Yud-Ké, Vav-Ké, qui sont symbolisées par les quatre fils bleus. C'est l'infini. Le nom de Dieu, Yud-Ké, Vav-Ké, symbolise et signifie l'infini. Donc le vêtement, j'ai un vêtement. Le vêtement est le kavod de l'homme. D'ailleurs, 32 lèvres, les 32 fils, ont la même valeur numérique que le mot kavod. Donc l'homme se met un vêtement. La Gemara dit que Rabbi Hanan appelait son vêtement Mechabedai. C'est le vêtement qui m'honore. Le vouche signifie l'eau-bouche. Pas de honte. Pour enlever la honte de la nudité, on met un vêtement. Et ce vêtement-là va nous honorer. Mais le vêtement signifie aussi, dans le Zohar, la trahison. Beged. Beged, le vêtement, la matérialité, trahit la spiritualité qu'elle doit contenir. Donc nous mettons un vêtement qui est la matérialité. Ce vêtement-là qui va refléter et rayonner de l'honneur que nous avons, à ce vêtement-là, nous allons mettre 32 fils, dont 4 fils bleus, qui relient toute la matérialité à la spiritualité. Nous faisons une action du bas vers le haut. Ça, c'est la mitzvah de Tzitzit. À noter que depuis la destruction du temple, depuis la perte de la terre d'Israël, le Tehelet a disparu. Donc nous ne pouvons donc pas appliquer, comme nous l'avons dit, la mitzvah correctement. Le Tehelet a un lien certain avec la terre d'Israël. Deuxième mitzvah, Afrachat Hala. Il est dit, quand tu feras une pâte, tu pétriras et tu mangeras ton pain, tu devras prélever la trouma de ton pain. Mais que signifie le mot trouma, prélèvement? La Gemara dit, trémiméa. Elle fait un jeu de mots sur ce terme-là et dit, terouma signifie trémiméa, 200. Donc la mitzvah de prélèvement en général est de 200. Le Gaon de Vilna souligne que la première Mishnah de Brachot qui dit à partir de quand peut-on lire le Kriyat Shema, le verset, le schéma du soir, il dit quand les Kohanim qui ont été impurifiés se purifient et auront le droit à la tombée de la nuit de manger la Trouma. Quel lien y a-t-il entre la Trouma et la lecture du schéma? Le Gaon dit que dans le premier verset, les deux premiers versets que nous disons, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et le verset que nous disons à voix basse, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Va'ed, il y a 49 mots, et c'est 49 lettres. Et ces 49 lettres font l'unité avec l'action d'unir, qui tout ça mène à l'unité, à l'unicité de Dieu, la proclamation de l'unicité de Dieu, d'Hachem, ça c'est le 50e. Donc avec les 49, nous arrivons à la 50e, à la notion du 50. Donc nous prélevons 1 de 50. 49 qui mène à 50. La chala, c'est à exactement la même action. Nous faisons la pâte. La pâte qui est le produit de la terre d'Israël. Le pain que nous mangeons, sur lequel on devrait faire essentiellement la mitzvah de Challah, est la terre, ce que la terre d'Israël a produit. Cette terre-là, et cette production de ce fruit-là de la terre d'Israël, contient la spiritualité, qui est ce prélèvement. Donc il dit, quand tu pétris ta pâte et tu fais ton pain, tu devras prélever la terouma. Terumat Hala. Cependant, dans Terumat Hala, c'est 1/48 qu'il faut prélever. La notion de pâte, c'est la notion de matière. Le pain, c'est la matière même. C'est le corps de l'homme est appelé le pain. Et ce pain-là que la terre produit contient déjà la spiritualité. Et cette spiritualité, nous devons la dévoiler par le prélèvement de la challah. Donc quand nous faisons la mitzvah de prélever la challah, nous élevons en réalité, nous dévoilons de la matière pain, nous dévoilons la partie spirituelle qui revient au Kohen. Ces deux notions-là sont les deux approches complémentaires que nous avons entre la tribu, les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Arriver à joindre, à équilibrer, à conjuguer les deux approches de la Torah, la prendre possession de la terre d'Israël sans aucun rapport avec la spiritualité, c'est ce qu'ont fait les Ma'apilim. Juste après, il est dit, après que la sanction soit tombée, dans notre paracha, après que la sanction soit tombée, et que Hachem a dit, Moshé dit au peuple, ça y est, c'est fini, vous allez rester 40 ans dans le désert. Certains d'entre eux ont dit, on va y aller quand même. Et ils ont été détruits. Comment pouvez-vous aller à la conquête de la terre d'Israël alors que Hachem n'est pas avec vous? Donc ils ont voulu agir de leur propre initiative, sans avoir, entre guillemets, besoin de la présence de Dieu, de la spiritualité. Ils ont pensé pouvoir agir d'eux-mêmes dans la matérialité. Ils se sont détachés et ils ont été détruits. De l'autre côté, si nous agissons pas, nous nous contentons d'agir de manière spirituelle, sans agir dans la matérialité, alors nous sommes en détachement total de la matérialité. La force spirituelle n'agit pas sur ce monde. Nous n'arrivons pas à faire pénétrer la spiritualité dans l'action du quotidien. Ces deux notions-là, en vérité, doivent se compléter à travers ces deux mitzvot que nous accomplissons de manière imparfaite pendant toute la longueur de l'exil. Ces deux mitzvot-là, tzitzit d'une part et challah d'autre part, comme je vous l'ai dit, c'est étonnant, c'est particulier à challah que Chachamim ont fixé, même en dehors d'Israël, le prélèvement de la challah. Justement parce que c'est la tâche que nous avons avec la terre d'Israël. Comment arriver à prendre possession un jour le plus proche possible de la terre d'Israël de manière absolue? C'est en accomplissant si nous comprenons la profondeur de la mitzvah de challah, alors nous avons un droit sur la terre d'Israël et ce droit-là rejaillira à travers la mitzvah de challah. De l'autre côté, comment arriver à faire que dans la terre d'Israël, nous n'oublions pas que notre attachement spirituel, c'est la mitzvah de tzitzit, qui elle aussi est incomplète parce qu'il lui manque le techelet. C'est à nous de le mettre. C'est, nous faisons une mitzvah de tzitzit matérielle, 32 fils blancs, auquel nous devons, le blanc en général, c'est le fond du tableau. Le fond du tableau, là, on dessine sur du blanc. Et le bleu doit apparaître. Donc le bleu, le techelet, la présence de Dieu, c'est nous qui devons la faire apparaître et la tracer sur notre vêtement. Ces deux notions-là sont la conjugaison des forces de Yehuda, d'une part, et de Ephraïm d'autre part. C'est l'association qu'il y a entre Caleb et Yefouné et Yoshua bin Nun. L'association des deux va pouvoir permettre la prise de pouvoir de la terre d'Israël. Yoshua a une particularité en fait. Moshé Rabbeinu étant le da'at par excellence, détachement total de la matérialité, au-dessus de tout, il est Léa lui-même, au-dessus, Alma d'Etracia, le plus haut possible dans la spiritualité. Yoshua étant Rachel, étant la mise en application. Chachamim disent, Moshe est le soleil, et Yoshua est la lune. Donc Yoshua reçoit directement la puissance de Moshe et arrive à mettre cela en application dans la matérialité de la prise de conquête. C'est la conquête de la terre d'Israël. C'est Yoshua. Ces deux notions-là sont les notions de la délivrance totale, le Machiar ben Yosef et le Machiar ben David. Le Machiar ben David n'arrivera que lorsque le Machiar ben Yosef aura précédé en faisant ce travail-là qui est du bas vers le haut, et alors à ce moment-là, viendra la lumière du haut, descendra vers le bas, et la terre, à ce moment-là, il est dit dans le prophète, et la terre sera remplie, ou mala ares dea et Hashem. La terre se remplira de la connaissance. Encore une fois, le mot dea. La spiritualité totale, la compréhension totale. Les corps se purifieront. À ce moment-là, si nous avons fait le travail du bas, en dévoilant la spiritualité de la matérialité comme le prélèvement de la chala, à ce moment-là, notre tzitzit apparaîtra sur notre tzitzit, le bleu du techelet, et le machar sera là. Yiratzon, que nous sachions à mettre en application cette Torah-là. La Torah n'est pas seulement des rites, une succession de rites, juste des rites sans vie. La Torah, essentiellement, et la kavana, la mitzvah que nous accomplissons, doit être pleine d'intention et de vie, de ferveur et de compréhension, de manière à ce que nous arrivions à purifier le monde ici-bas et en faire la résidence de la Shekhina. Yiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous comble, vous comble de ses bénédictions et vous guide dans ses voies, qu'il nous illumine de ses lumières et qu'il mette un terme, grâce à ces deux mitzvot-là, Chala et Tzitzit, un terme à cet exil et que nous retournions la tête haute sur la terre. Bimhera, bien, et nous, amen.